Entendez-vous l'écho ? Arjuna Andrade.
Deuxième temps de notre série consacrée au prix du gratuit. Hier, nous revenions sur les ambivalences du don et de la charité qui permirent l'érection des cathédrales et le secours des indigents, mais qui furent aussi des instruments de pouvoir, des symboles de domination. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la face cachée du travail. Il arrive en effet que les hommes, ou plutôt bien souvent les femmes, soient forcés de travailler sans être rémunérés. On parle alors pudiquement de travail domestique ou de volontariat pour masquer des situations de travail déguisées. C'est en tout cas la thèse de notre invité qui voit dans les logiques de la gratuité une manière de légitimer et de perpétuer l'oppression des plus précaires au nom de l'efficacité de notre économie de marché. Il est 14h sur France Culture et c'est l'heure d'Entendez-vous l'écho. Avec nous aujourd'hui pour explorer les logiques du travail gratuit, Maud Simonet, sociologue, directrice de recherche au CNRS et auteur de l'ouvrage « Travail gratuit, la nouvelle exploitation » publié chez Textuel.
Je pense que le concept de travail, depuis l'époque de Friedman et Naville, était toujours un concept défini à partir d'un certain archétype de travailleurs du sexe masculin, de la grande industrie, faisant un travail salarié, qualifié. Et aujourd'hui, l'originalité de notre équipe du GEDiste a été justement d'élargir les concepts de travail par l'inclusion dans les concepts de travail du sexe social ou du genre, comme construction sociale, et donc un élargissement du concept de travail vers les travails domestiques, non salariés, non professionnels et non rémunérés. Et je pense que c'est cet élargissement qui fait éclater les clivages comme ceux entre production et reproduction, salariat, famille, etc. Et du coup aussi, ça fait éclater aussi des catégories sociologiques qui ont été construites à partir d'une population masculine, à partir des enquêtes auprès des populations masculines, comme par exemple les concepts de classe sociale, le concept de qualification ou les concepts de plein emploi, qui sont des concepts soi-disant universels, mais qui sont fondés dans sa construction sur des échantillons et des catégories masculines.
Maud Simonet, bonjour.
Bonjour.
On entendait Hélène Hirata sur les chemins de la connaissance le 7 décembre 1995 sur France Culture. La notion même de travail serait donc problématique, car fondée sur des réalités profondément masculines. Il faudrait donc aujourd'hui repenser notre conception même du travail ?
Ah oui, je pense que je suis tout à fait d'accord avec l'intervention d'Hélène Hirata et le fond de son propos, qui est un propos qu'on ne porte pas généralement, on va dire, en sociologie du travail, mais qui me semble à la fois important, d'actualité et assez incisif en fait dans la période contemporaine. Donc oui, sur la question de travail, j'ai envie de dire aussi sur la question de l'exploitation, sur les questions de domination, une bonne partie de la manière dont s'est construite cette approche-là repose sur une définition androcentrée de nos catégories, c'est-à-dire que finalement le travailleur c'est un homme avant tout. Et que du coup, on passe à côté de pas mal des transformations du travail aujourd'hui.
Mais alors, la question essentielle, c'est notamment de savoir ce que font les femmes et de savoir si ce qu'elles font, c'est du travail ou non. Et c'est notamment la question de voir où est cette frontière mouvante entre le loisir, le volontaire, l'obligatoire et le travail. C'est peut-être ça la question fondamentale, de savoir ce qu'il se passe dans le foyer.
Alors, il y a plusieurs questions. On va dire que moi, je suis rentrée par ces questions-là et en rentrant pas par la question du domestique, mais plus par ce que vous évoquiez autour du volontariat, de l'engagement, etc. Donc, en rentrant finalement par ces activités qui sont pas reconnues comme du travail, qui sont reconnues plutôt traditionnellement comme du hors-travail, comme de l'engagement, de la citoyenneté, et qui en fait ont été étudiées par d'autres que des sociologues du travail, et qui posent effectivement la question des frontières qui sont qui sont mises socialement, finalement, entre travail et hors travail, et puis la question des usages, en fait, de ces activités, c'est-à-dire elles ne sont pas reconnues socialement, juridiquement, monétairement comme du travail, et pourtant elles font fonctionner les associations, elles font fonctionner les services publics, et pour certaines d'entre elles aussi, les entreprises.
Mais alors justement, pour essayer de comprendre si on parle bien de travail, certains intellectuels, certaines intellectuelles se sont dit que la meilleure manière de comprendre ces logiques, c'était de reprendre les armes et les outils de leurs adversaires, ou au moins des hommes. Et donc, elles se sont dit qu'il fallait utiliser la monnaie. Il fallait replacer ce qui était fait dans le cadre du foyer et lui donner une valeur monétaire pour établir que c'était bien du travail.
Alors, en fait, cette question-là est finalement, fondamentalement, et c'est ce que j'essaye un petit peu de développer dans mon livre, toutes ces questions autour des frontières du travail, autour de ce qui est travail, ce qui n'est pas travail, autour de ce qui seraient des formes de travail gratuites ou pas, etc., qui sont beaucoup posées aujourd'hui, notamment sur les questions du digital labor, etc., on y reviendra peut-être. Ces questions-là, ce que j'essaye de montrer, c'est qu'elles ont été posées il y a plus de 40 ans par les féministes autour du travail domestique. Donc, l'idée que, finalement, il y avait toute une série d'activités qui étaient faites essentiellement par les femmes, dans la sphère domestique, au nom de valeurs, hein, au nom de l'amour, au nom de la nature féminine, au nom de la famille, et qui étaient faites gratuitement pour les autres. Et donc, la volonté des féministes à l'époque, qui était une volonté tout à la fois politique et scientifique, c'était de faire voir, de rendre visible, en fait, ce travail domestique. Et pour le rendre visible, une des manières, un des outils qui a été mobilisé, ça a été de le mesurer, effectivement. Et donc, on a eu des mesures du travail domestique qui ont été faites par des statisticiennes. Et ce qu'on a compris à ce moment-là, on a eu par exemple au début des années 80 deux articles assez importants qui sont sortis à partir de la même enquête de l'INSEE sur les emplois du temps des familles françaises et qui mesurent finalement le temps passé au travail domestique et qui montrent que ce sont essentiellement les femmes qui passent ce temps au travail domestique. On en a une qui est publiée en unité de temps, donc qui nous donne le temps passé, et qui finalement suscite pas plus que ça l'intérêt ni de la presse, ni des scientifiques, ni des politiques. Et puis on en a une qui sort avec les mêmes données en fait, et qui mesure ça, qui est donc celle de Chadot, Fouquet et Tello, et qui sort en 81, et qui mesure ça en unité monétaire, donc qui valorise monétairement ce travail domestique, et qui a fait l'effet, comme dira Annie Fouquet 20 ans plus tard, quand elle revient sur cette publication, elle va faire l'effet d'une révélation.
Annie Fouquet, qui dans cette révélation explique que si l'on peut acheter sur le marché un bien ou un service équivalent à celui qui a été produit par une femme, on pense toujours notamment au fait de faire le ménage, de faire le repassage, de faire la cuisine, etc. À partir du moment où on peut le quantifier et lui donner une valeur, alors c'est du travail domestique. Alors
oui,
c'est du travail.
En fait, d'emblée, il pose la question. Alors moi, c'est ce que j'essaye de souligner un peu sur toutes ces réflexions. Celle de la valorisation, comment finalement on montre, on mesure et en quoi on valorise le travail domestique. Mais il y a d'autres questions autour de la valeur finalement du travail domestique que vont poser les féministes à ce moment-là, où elles seront pas toujours toutes d'accord. Mais elles vont soulever en fait, en posant toutes ces questions autour de la valeur du travail domestique, la question de la valeur ou des valeurs du travail gratuit. Et donc c'est pour ça que moi ça va m'intéresser en travaillant sur ces questions. Et dans l'acte même de mesurer ce travail domestique, de le définir qu'elles vont faire dans ces enquêtes-là, d'emblée, elles vont nous montrer que c'est loin d'être quelque chose d'évident et que toutes ces petites choses techniques qui nous font décider tel ou tel critère sont en fait des définitions relativement politiques. Donc elles vont dire finalement, on va pas se reposer sur ce que pensent les gens comme étant du domestique ou pas, on va pas non plus se reposer tant que ça sur une définition complètement objective qu'on ferait nous-mêmes. On va prendre comme critère l'idée que si on peut se procurer, donc c'est un critère, mais elles disent bien, c'est un critère presque arbitraire, mais c'est celui qu'on choisit pour notre enquête, pour montrer finalement la valeur du travail domestique.
Et l'absurdité de ne pas le prendre en
exactement,
compte.
Exactement. Si on peut se le procurer sur le marché du travail, ce service domestique, alors on va le compter, on va le mesurer. Et là, toute la question qu'elles ouvrent à ce moment-là, c'est on lui donne quel prix ? Comment on le mesure ?
C'est ça, parce qu'on va avoir deux manières de rendre visible cette valeur.
Tout à fait.
Ça va être soit de montrer que fait dans un vrai emploi, quelle serait la valeur de ce travail, ou alors de voir quel serait le coût d'opportunité d'une femme si elle allait travailler. Quelles sont un peu ces deux options ?
Oui, tout à fait. Il y a deux manières finalement. Il y a la question du coût du marché, c'est-à-dire en gros, je vais l'acheter. Et encore, même là, il y a deux possibilités. C'est-à-dire, je vais l'acheter sur le marché. Soit je considère qu'à chacun de mes types de travaux domestiques, je dois donner un prix différent parce que ça coûte pas la même chose sur le marché de chercher à manger ou de trouver quelqu'un qui va nettoyer mon appartement ou quelqu'un qui va garder mes enfants. Donc en fait, on va spécialiser. Ou alors on décide qu'il y a un seul prix unique pour toutes les formes, hein, parce que ça simplifie les choses et c'est souvent ça qui va être fait dans les enquêtes. Mais ça pose aussi la question, c'est que souvent du coup ce prix unique, ça va être quoi? Ça va être le SMIC. Et donc on postule d'emblée qu'en fait on est sur une forme de travail peu valorisée économiquement et donc qui demanderait pas finalement tant de compétences que ça. Donc voilà, ça c'est une des premières formes finalement que peut prendre la valorisation et qui pose déjà plein de questions. Et puis l'autre, c'est effectivement de valoriser au coût d'opportunité ou au manque à gagner. C'est-à-dire, c'est de dire quand Maud Simonet passe une heure à nettoyer son appartement, c'est une heure qu'elle passe pas à faire de la recherche, etc. Donc on va prendre finalement son heure de salaire. Mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand moi je fais une heure de travail domestique, et il coûte plus cher ou il est valorisé plus cher que si c'est quelqu'un qui est dans un emploi moins valorisé économiquement. Et ça veut dire aussi que du coup, souvent, les hommes, l'heure de travail domestique des hommes sera plus valorisée que celle des femmes. Donc en fait, toutes ces petites questions techniques posent énormément de questions politiques, avec ce risque que certains économistes ont soulevé, finalement, de transporter dans la valorisation monétaire du travail domestique les inégalités qui existent déjà sur le marché du travail rémunéré, sur l'emploi. C'est-à-dire qu'on transfère finalement les inégalités de salaire entre les hommes et les femmes à l'intérieur de la valorisation du travail domestique, sachant qu'en plus ces inégalités sur le marché du travail rémunéré viennent souvent du fait qu'on associe certaines tâches dites féminines à du travail domestique. Donc on a un espèce de cercle
en tout entraînant.
Exactement, de dévalorisation.
Et on a une seconde critique qui est formulée à l'encontre de ce type de fiction qu'on crée pour rendre compte de quelque chose qui était devenu invisible. C'est les sociologues et économistes Dominique Méda et Florence Janicatrice qui le formulent. Elles expliquent que le fait de monétariser ces activités qui sont menées dans le cadre du foyer porte le risque en le marchandisant et en rationalisant, passer dans le marché des choses qui étaient sacralisées dans le domaine du foyer. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu cette idée?
Oui, c'est l'idée de finalement, est-ce que en valorisant monétairement, donc finalement en acceptant ce que nous a dit Annie Foucault, hein, disant la seule manière de le faire voir, c'est de le mettre dans les termes de la langue dominante en fait, hein, qui est la monnaie. En faisant ça, est-ce qu'il n'y a pas un risque de rentrer les logiques marchandes, donc de marchandiser nos sphères privées, nos sphères intimes, et donc de dire que finalement la seule valeur de ces activités privées, intimes, etc., ce serait une valeur marchande, et en fait de donner raison au marché et d'ouvrir même presque une espèce d'extension du domaine du marchand. Et c'est donc on est pris dans une forme de tension entre invisibilité ou marchandisation, avec quand même cette conscience que tant qu'on ne l'a pas mesuré, hein, c'est-à-dire qu'il y a un enjeu, et en même temps, tant qu'on n'a pas mesuré ça à un moment donné monétairement, on ne l'a pas vu.
Personne ne s'y intéresse. Ouais. Et il y a aussi cette question que peut-être que ça pourrait être un risque de voir le marché se saisir de ce qui se passe dans le foyer, dans l'intime, si ça touchait également l'homme et la femme. Or aujourd'hui, le seul moyen de rendre visible cette question, qui ne touche a priori, qui touche beaucoup plus les femmes aujourd'hui, c'est de le rendre visible par la monnaie, par la sphère marchande et par la sphère économique.
Oui, en même temps, ce que nous ont montré les féministes dans leurs travaux, c'est que quelque part, la sphère économique, elle est déjà là dans le gratuit. Donc c'est pas parce qu'on n'est pas dans une logique de marché classique, j'ai envie de dire, qu'on n'est pas dans une logique déjà économique. Donc on est pris dans ces tensions finalement. Est-ce qu'on peut penser cette question économique et cette question de la valeur en dehors de la logique pure du marché?
Alors sachant qu'il y a un certain nombre d'intellectuels et de militants qui vont se saisir de ces questions du travail gratuit pour essayer d'y trouver non seulement une explication mais aussi des solutions en aval, on a notamment le féminisme marxiste qui va s'en saisir et pour qui ce travail gratuit en fait est une manière d'exploiter les femmes et de perpétuer la logique capitaliste, les femmes étant au cœur de cette accumulation du capital.
Oui, en fait, ça c'est un peu la deuxième question finalement qu'on peut retrouver dans les travaux des féministes. Hein. La première c'est quelle valeur donner à ce travail gratuit, dans quelle unité on le mesure, ce qu'on vient d'aborder. Et la deuxième c'est finalement ce travail gratuit, il a de la valeur pour qui en fait, hein. Qui se l'approprie la valeur de ce travail-là gratuit? Et en fait, il y a peut-être deux courants qui ont pensé avec Marx et contre Marx autour de ces questions-là. un courant qu'on va dire, qui en fait part du même diagnostic, hein, qui sont des féministes marxistes, qui vont dire, en gros, Marx a pas suffisamment pensé la question du travail domestique des femmes, et donc laisser un peu dans l'oubli la question des formes d'exploitation, d'oppression, de domination que subissent plus particulièrement les femmes. Et donc, elles vont s'inscrire finalement dans ce manque et essayer de le compléter tout en utilisant aussi les outils de la pensée marxiste, du matérialisme, etc. Et on a deux courants. Alors moi, j'ai essayé de les présenter un petit peu, ces débats qui seront pas d'accord. Il y en a une espèce de débat autour de ça, de controverse, on peut dire, qui vont penser avec et contre Marx, donc qui sont en un sens dans un héritage du marxisme des deux côtés, mais un courant plus traditionnellement appelé féministe marxiste ou... un des courants, ça peut être les post-opéraïstes, les autonomes, etc. Comme tout ce courant international du salaire au travail ménager, dans lequel on aura Maria...
On y reviendra.
Voilà.
On y reviendra.
Mais Maria Rosa Della Costa, Silvia Federici, etc., qui vont nous dire finalement, bah, il y a une chose que Marx a pas vraiment poussée au bout, il y a un travail qui est essentiel au fonctionnement du capitalisme, c'est le travail de reproduction de la force de travail. C'est-à-dire que ce travailleur qui va tous les matins à l'usine et qui fait fonctionner le système capitaliste, eh ben il faut qu'on lui ait lavé ses vêtements, qu'il ait mangé, qu'il ait suffisamment dormi, qu'il soit suffisamment aimé pour se lever, tenir debout, etc. Donc, il y a tout un travail de reproduction de la force de travail qui est indispensable au fonctionnement du capitalisme et qui est essentiellement fait par les femmes.
Il y a cette question, pour reprendre les termes de la sociologue Christine Delphi, d'identifier l'ennemi principal. Et donc entre cette première mouvance, si on peut dire, et cette seconde, c'est que d'un côté, on va dire que c'est le capital et le capitalisme qui bénéficient d'abord du travail des femmes et de ses capacités de reproduction, et de l'autre, c'est que c'est les hommes. Est-ce que vous pourriez nous expliquer peut-être ce que disent des intellectuels comme Silvia Federici, justement, sur cette appropriation par le capitalisme et sur cette volonté d'instaurer un salaire au travail ménager.
D'accord. Comme, donc ça, c'est la première logique. Hein, c'est cette idée qu'effectivement, même s'il faut faire attention, parce qu'on peut pas opposer à l'ennemi principal serait le capitalisme ou pour les autres ce serait le patriarcat. Dans les deux cas, il y a des modes d'articulation en fait de la question capitalisme et patriarcat. Mais disons que dans l'approche de la reproduction qu'on évoquait, l'idée effectivement, c'est de se dire finalement à côté de l'usine classique, il y a une autre usine invisible dans laquelle on a essentiellement mis les femmes et qui fait fonctionner ce système capitalisme en s'occupant de tout ce travail de reproduction. Et en fait, c'est une approche qui va même plus loin, parce que c'est une approche qui dit le capitalisme a construit en fait cette figure de la femme au foyer assignée au travail domestique, hein. C'est ce que nous montre Federici notamment dans son ouvrage Caliban et la sorcière, où elle nous montre comment finalement dans la naissance et le développement du capitalisme, il n'y a pas simplement l'expropriation des paysans, la colonisation, mais il y a aussi la chasse aux sorcières, c'est-à-dire cette espèce de mouvement par lequel on va faire comprendre aux femmes que leur tâche principale, c'est d'être à la maison, d'être finalement docile et relativement domestiquée, j'ai envie de dire, subordonnée à ce travail de reproduction à l'intérieur de la maison.
Avant de parler des solutions, je vous propose d'écouter une lecture de la philosophe Silvia Federici, qui parle justement d'une rupture à la fin du 19e siècle avec le renvoi des femmes au foyer. Je vous propose qu'elle en dit dans son dernier ouvrage, Le capitalisme patriarcal.
Ce qu'on voit à partir de la fin du 19e siècle, avec l'introduction du salaire familial, du salaire ouvrier masculin, c'est que les femmes qui travaillaient dans les usines en sont chassées et sont renvoyées au foyer, si bien que le travail domestique devient leur premier travail, au point d'en faire des personnes dépendantes. Cette dépendance à l'égard du salaire masculin définit le patriarcat du salaire. À travers le salaire se crée une nouvelle hiérarchie, une nouvelle organisation de l'inégalité. L'homme a le pouvoir du salaire et il devient le contremaître du travail non rémunéré de la femme. Cette nouvelle organisation de la famille marque un tournant historique. Elle a permis un développement capitaliste impossible jusqu'alors. La création de la famille nucléaire accompagne le passage de l'industrie légère à l'industrie lourde, qui nécessite un type d'ouvrier différent et non plus le travailleur sans force, faiblement productif, produit du régime d'exploitation absolue.
Si on en croit Silvia Federici, c'est donc qu'on écarte volontairement et systématiquement les femmes du marché du travail pour se charger du reste, du travail ménager. Et alors qu'est-ce qu'elle propose comme solution, comme sortie à cette situation ?
Bah justement, elle, avec d'autres féministes, c'est un véritable mouvement international, hein, en Italie, au Québec, aux États-Unis, vont créer dans les années 70 un mouvement qui s'appelait Wages for Housework, donc pour un salaire au travail ménager. Il y a un très bel ouvrage de la sociologue Louise Toupin qui retrace toute l'histoire de ce mouvement international, de sa construction, de ses développements, de ses critiques, etc. Et donc l'idée, c'est de dire, bah finalement, il faut salarier le travail ménager pour pouvoir redonner finalement un pouvoir politique aux femmes, aux travailleuses femmes, à la fois par rapport aux hommes, mais aussi par rapport au capital, et dénaturaliser cette assignation du travail domestique aux femmes, dont on a le sentiment aujourd'hui que finalement ça a toujours été le cas, mais ce qu'on voit vraiment quand même dans le travail de Silvia Federici, c'est de nous montrer comment ça a été vraiment construit historiquement avec plein d'étapes. Là, l'extrait que vous montriez, c'était des étapes où on les fait sortir de l'usine. Dans le Caliban et la sorcière, il y a vraiment des passages où on montre comment finalement on avait des femmes dans certains métiers qu'aujourd'hui on assimile encore à des métiers d'hommes, forgerons, etc. Et comment petit à petit on va les sortir de ces métiers-là et les pousser vers certains métiers de blanchisseuse, domestique, etc. Donc, elle a vraiment montré finalement ce travail-là du système capitaliste pour pousser les femmes. Et donc l'idée, c'est de dénaturaliser, de repolitiser ce travail domestique, d'en montrer finalement la nature de travail, et donc de proposer un salaire au travail ménager.
Voilà. C'est non seulement un salaire comme une rémunération, mais c'est aussi replacer les femmes sous la protection du statut du salariat qui permettrait, selon Silvia Federici, de leur donner les moyens de s'engager, de se mettre ensemble dans des luttes communes pour pouvoir améliorer leur situation.
Oui, c'est l'idée en fait d'une reconnaissance de leur statut de travailleuse avec tout ce que ça entraîne. Ça veut dire mettre fin à l'idée d'une disponibilité perpétuelle. À un moment donné, il y a évoqué l'idée qu'on pourrait tout à fait, par exemple, définir quelles sont les tâches du travail domestique, les heures, les qualifications, mais du coup monter des syndicats, monter des revendications. Donc voilà, casser l'espèce de naturalité et de disponibilité et d'assignation donc à la femme. Et puis l'idée, en fait, elle le redit souvent, et les autres chercheuses qui ont participé de ce mouvement le disent aussi, c'est pas une fin en soi, l'idée de donner un salaire au travail domestique. C'est presque un début, en fait. C'est un point d'ancrage, c'est un point à partir duquel il y a la possibilité de lutter pour une reconnaissance de ce travail-là.
Ça n'est qu'un début, sans quoi on peut y objecter le fait que ce serait au contraire un moyen de maintenir les femmes dans le travail ménager, puisqu'elles y auraient un avantage pécunier et financier.
Ça a été une objection qui a été faite d'emblée, en fait. C'est le mouvement du salaire au travail ménager a été critiqué assez fortement dès ces mobilisations dans les années 70 autour de cette idée-là, que finalement c'était simplement donner de l'argent pour renforcer, finalement institutionnaliser l'assignation des femmes au travail domestique en les rémunérant. La réponse, en fait, elle se fait à plusieurs niveaux. L'idée, c'était que c'était rémunérer le travail domestique et pas les femmes. Donc, il y avait bien l'idée que... Et donc, en dénaturalisant, on avait peut-être la possibilité de transformer, finalement, les rapports sociaux. Et l'idée aussi, c'était de dire, ça n'est pas rémunéré, c'est rentrer dans le salaire, c'est-à-dire rentrer dans un rapport de pouvoir avec le capital.
Et alors l'autre mouvement militant qui s'oppose à cette forme de travail gratuit qui ne serait ni reconnu ni salarié, ce serait le féminisme matérialiste radical, porté notamment par une figure comme Christine Delphi, et pour qui il faut combattre le capital et le capitalisme, mais pas seulement, il y a aussi les hommes qui bénéficient du travail des femmes.
Ouais, disons que là où l'approche plutôt portée par Silvia Federici et les autres du salaire au travail ménager, c'est une lecture finalement de la dimension patriarcale du capitalisme, c'est-à-dire de nous dire voilà, en fait, le capitalisme, il est patriarcal d'emblée, il s'est construit comme ça. L'approche plutôt matérialiste radicale, comme celle de Christine Delphi, va nous dire attention, il y a plusieurs modes de production qui coexistent et donc plusieurs formes d'exploitation qui coexistent. Évidemment, il y a l'exploitation capitaliste qui a d'ailleurs une dimension patriarcale, pourquoi pas, etc. Mais il y a à côté un mode de production domestique ou un mode de production qu'elle appelle aussi patriarcal dans lequel s'inscrit ce travail domestique auquel elle va donner une définition un peu différente de ce qu'on a évoqué jusqu'à présent. Et donc pour elle, ça n'est pas la classe capitaliste dans ce mode de production là qui bénéficie du travail domestique, mais la classe des hommes.
Pas que les capitalistes, mais aussi les hommes. Ouais. Je vous propose d'écouter ce que dit la sociologue Christine Delphi des liens entre la domination masculine et la domination capitaliste. Elle s'exprimait dans l'émission À voix nue le 16 janvier 2019 sur France Culture.
Le mode de production domestique, c'est justement le mode de production où la force de travail, j'emploie là un vocabulaire marxiste, mais enfin la capacité de travail des épouses, des épouses et souvent aussi des enfants, de moins en moins maintenant, mais c'était des enfants, filles ou garçons, la capacité de travail de ces gens était utilisée par le chef de famille. Et alors évidemment, c'était beaucoup plus fréquent dans le cas des épouses. Ça faisait partie de la notion même du mariage que les femmes fassent ce travail pour rien. Pour rien, je veux dire, juste pour leur entretien en fait. C'est la classe des femmes, des épouses, mais aussi des filles, des mères, des femmes qui ne sont pas mariées, qui ne sont pas en couple, mais qui travaillent malgré tout. Et le capitalisme aide le patriarcat dans ce sens-là. Donc c'est comme s'il y avait une union en donnant des travaux inférieurs et des salaires inférieurs aux femmes.
Pour Christine Dalphy, le travail gratuit serait donc inscrit dans le mariage lui-même. C'est là que ça devient intéressant, car pour elle, il n'y a pas que le travail qui profite à autrui. Ce n'est donc pas la tâche qui fait le travail gratuit, mais son appropriation par autrui.
Oui.
Et donc, par exemple, une femme qui habiterait seule, qui ferait sa lessive pour elle-même, ne produirait pas de travail gratuit.
Oui, c'est la différence, effectivement, dans la définition de Christine Dalphy. Le travail, c'est une définition qui est à la fois plus large et plus complexe, c'est-à-dire elle est plus large parce que sa définition du travail gratuit, elle est pas du tout par rapport à la tâche. Donc effectivement, une personne qui ferait ses propres activités domestiques pour elle-même, finalement pour elle, ça relève pas du travail gratuit. Donc on n'est pas dans cette dimension relationnelle d'appropriation. Mais par ailleurs, elle élargit en fait la définition du travail domestique telle qu'on l'a par rapport à ce qu'on évoque depuis tout à l'heure, parce qu'elle va faire rentrer du coup dans cette idée d'appropriation par le chef de famille du travail fait par les membres de la famille, elle va pas faire rentrer que ce qu'on met simplement dans la notion de travail domestique au sens de travail ménager, mais elle va faire rentrer aussi, par exemple, tout le travail fait par les femmes des professions libérales qui vont faire la comptabilité, qui vont donner un coup de main, voilà, de visibilité, de relationnel, de toute cette forme finalement de travail invisible aussi pour la carrière du mari, hein, qui sera, je sais pas, avocat, homme politique, etc. Eh bien, ça rentre pour elle dans le travail domestique. Donc c'est aussi une forme de travail fait par les femmes appropriée par le mari. Donc c'est effectivement des définitions différentes et des manières différentes de penser cette question-là, même si, et c'est ce sur quoi moi j'ai essayé d'insister, il y a des leçons communes qu'on peut tirer de ces analyses-là pour analyser d'autres formes de travail gratuit aujourd'hui.
Et alors il y a aussi des intellectuels et des militants qui vont aller encore plus loin et prendre une route différente de celle qu'on vient d'évoquer. C'est notamment le cas de certains intellectuels américains comme la féministe Bell Hooks, pour qui le travail ménager existe, le travail gratuit aussi. Pour autant, elle ne lui accole pas forcément une dimension aussi négative que les deux auteurs qu'on vient de citer auparavant.
Alors, oui, Bell Hooks, qu'elle va faire en fait. Donc Bell Hooks, c'est une féministe américaine qui va faire partie du mouvement du Black Feminism et des débuts de ce qu'on va appeler l'intersectionnalité. Et en gros, elle va interpeller le mouvement féministe, donc dans les années 70-80 plutôt, en disant en fait que le mouvement féministe, ou en tout cas une partie du mouvement féministe américain qui dit en gros il faut que les femmes sortent de la maison, l'émancipation se trouve sur le marché du travail, etc. En fait, c'est un mouvement situé socialement et racialement en fait. Et elle va dire en gros, ce discours-là, c'est un discours qui est tenu par des féministes blanches des classes moyennes ou supérieures qui nous disent, moi j'en peux plus d'être à la maison, de m'occuper de mes enfants, de ma famille, etc. J'ai besoin d'aller sur le marché du travail pour exister, pour m'émanciper. Et Bell Hooks répond en quelques phrases, quoi. Nous, les femmes noires, mais aussi les femmes finalement des classes ouvrières américaines, on a toujours travaillé. Et c'est pas sur le marché du travail qu'on a trouvé une émancipation, on a trouvé des formes d'exploitation aussi. Et donc, quelque part, la maison, ça peut représenter pour nous un espace dans lequel on souhaiterait investir un peu plus, dans lequel on aimerait se retrouver. En plus, on est dans une société raciste, dans laquelle finalement, le retour vers le foyer peut être aussi un lieu de préservation de notre subjectivité, mais aussi de mobilisation politique, de construction de sujets politiques, de transmission de valeurs à nos enfants, où on leur explique aussi comment se défendre dans une société raciste, etc. Donc elle nous dit, attention, finalement, la valeur du travail domestique des unes, c'est peut-être pas la valeur du travail domestique des autres.
Ça lui permet de dire que s'il y a des femmes pour lesquelles la maison, le domus, ce travail domestique peut être un refuge, un espace de reconstruction, ça veut dire qu'il n'y a pas ni un type de travail domestique ni un type de femme. Ouais. Et c'est ça qui est fondamental, c'est qu'elle va remettre en cause cette forme d'homogénéité des femmes qui seraient malheureuses de travailler dans le domestique ou au contraire qui seraient heureuses. Et ça, ouais, et ça c'est fondamental pour ce mouvement.
C'est fondamental. En même temps, il faut avoir en tête, moi j'ai envie de dire encore plus que ça, c'est-à-dire que tout en disant ça, c'est-à-dire la valeur du travail domestique n'a pas le même sens pour nous que pour vous, elle ne nie pas l'exploitation par les femmes du travail domestique. C'est-à-dire qu'elle ne nie pas le fait que le travail soit assigné essentiellement aux femmes, que ça pose un problème et que c'est un support d'exploitation. Mais elle nous oblige à penser ensemble cette exploitation de toutes les femmes dans le travail domestique et la possibilité que ce travail domestique ait quand même une valeur civique, sociale, pour certaines plus que pour d'autres. Donc c'est une pensée qui est complexe et c'est effectivement une pensée qui nous oblige à déshomogénéiser les femmes, hein, et à penser qu'il n'y a pas simplement, et c'est pour ça que je parlais d'intersectionnalité, il y a certes des rapports sociaux de genre, mais il y a aussi des rapports de classe, et il y a aussi des rapports de race qui traversent finalement le travail et donc aussi le travail gratuit, et qu'il faut prendre en compte la manière dont ils structurent finalement ce travail domestique. In the darkness of night, huh, all the stage lights are shining bright. Hey, and we work very hard to make you stay rough, but it ain't no thing, y'all. 'Cause I know that you can hang. We're not too expensive, but you got to pay. Rah!
Vous êtes sur France Culture, nous écoutons We Don't Work For Free, The Grandmaster Flash. Il est 14h33 et nous sommes en compagnie de Maud Simonet pour évoquer la question du travail gratuit. Peut-être Maud Simonet, on pourrait revenir sur ces questions théoriques. Nous avons évoqué les travaux de Christine Delphi, de Bell Hooks, de Silvia Federici. En quoi est-ce que ces apports théoriques de ces intellectuels vous ont été utiles dans votre travail à vous de sociologue de
oui,
terrain?
Oui, donc là on a beaucoup parlé des questions théoriques, mais effectivement moi je suis sociologue, ça veut dire qu'au départ je fais des enquêtes de terrain et que j'ai donc pendant les 15-20 dernières années travaillé sur différentes formes d'activités qui sont pas reconnues comme du travail. Et donc, pour chercher finalement à les analyser ensemble, donc que ce soit le bénévolat, le volontariat, on évoquait la question des stages, la question du travail gratuit sur Internet. Enfin, on pourra revenir sur la question du travail des allocataires de l'aide sociale. Enfin, on pourra revenir sur toutes ces formes finalement de travail gratuit qui ne sont pas exercées à l'intérieur du foyer, mais qui sont exercées effectivement dans la sphère publique, sur lesquelles j'ai travaillé. Bah, j'ai essayé de piocher finalement, de puiser en fait dans ces analyses féministes du travail domestique une grille de lecture pour penser ces formes de travail gratuit aujourd'hui. Et c'est vrai, quand on plonge en fait dans ces textes, dans ces réflexions, dans ces débats, dans ces controverses, encore une fois on disait que tout le monde n'était pas d'accord et donnait pas forcément les mêmes analyses ou les mêmes définitions, on a des vraies leçons quand même qu'on peut tirer dans la manière dont elles ont posé toutes les questions sur la valeur du travail gratuit. Une des leçons qu'on peut tirer, par exemple, c'est cette idée que, sur la place de l'argent, justement, et cette idée qu'en fait, le travail gratuit, c'est pas tant un travail moins une rémunération. Donc, c'est pas une définition négative. Ce que nous lèguent, en fait, les travaux des féministes sur le travail domestique, c'est une définition très forte du travail gratuit. C'est un déni de travail. C'est-à-dire que le travail gratuit, c'est une non-reconnaissance de la travailleur ou du travailleur comme travailleur, parce qu'il est reconnu comme autre chose. Et cette autre chose, ce sont des valeurs. Donc, au nom des valeurs, hein, on va pas vous reconnaître comme travailleur parce qu'on va vous reconnaître comme mère, comme épouse, mais du coup comme militant, comme artiste, comme un jeune en formation. Donc voilà. Donc cette idée que finalement le travail gratuit, c'est pas un travail moins une rémunération, c'est un déni de travail. Ça, c'est une première leçon très importante.
C'est une manière de voir la façon dont une même activité va être exercée par différentes personnes, et ces différentes personnes ne vont pas être considérées de la même manière. Vous avez travaillé notamment sur l'exemple des parcs à New York avec John Krinsky, et vous nous montrez dans votre ouvrage qu'il y a une véritable distinction qu'on peut faire entre les nettoyeurs officiels des parcs qui sont embauchés par la ville de New York, les employés municipaux, les employés associatifs, et enfin, ceux qui sont bénévoles ou alors allocataires de l'aide sociale. Ils font le même travail, mais ils sont considérés et rémunérés différemment.
Oui, donc on a cette enquête avec John Krinsky qu'on a appelée « Who cleans the park ?», donc « Qui nettoie le parc ?», hein, qui est partie du constat suivant, hein, qu'au milieu des années 70, la municipalité de New York avait 7000 fonctionnaires municipaux qui nettoyaient les parcs de la ville, et que, donc c'était juste avant la grande crise budgétaire de la ville de New York, et qu'avec Krinsky, quand on arrive en 2006, sur le terrain, ben on constate qu'il y a plus que 2000 fonctionnaires municipaux, donc qui sont fonctionnaires municipaux, ça veut dire protégés par les règles de la fonction publique municipale, et aussi syndiqués, donc des travailleurs assez protégés, hein, sur l'espace public new-yorkais. Donc ils sont plus que 2000 à nettoyer les parcs. Donc
la question qu'on pose. Pourtant le travail est toujours fait.
Pourtant le travail est toujours fait, et certains parcs de la ville sont même beaucoup plus propres qu'ils ne l'étaient dans les années 90. Donc la question qu'on a posée faussement, naïvement, c'est mais qui donc nettoie ces parcs? Et donc, on a mené une enquête pendant 4-5 ans, en fait, sur le terrain, dans différents parcs, différentes boroughs, hein, différents endroits de la ville de New York, pour essayer de comprendre qui était et documenter, en fait, l'arrivée progressive de tous ces nouveaux travailleurs dans les parcs, et documenter donc cette démultiplication des statuts de travailleurs dans un petit service public où, à côté des fonctionnaires municipaux, donc en nombre réduit, sont apparus effectivement des salariés associatifs qui font exactement le même travail qu'eux, mais qui n'ont pas du tout les mêmes droits ni la même rémunération, hein. Et puis à côté, des allocataires de l'aide sociale par milliers, essentiellement des femmes, enfin on pourra y revenir, et puis toute une flopée de bénévoles qui peuvent être des bénévoles associatifs, des bénévoles de quartier, des bénévoles individuels, mais qui vont donner un petit coup de main, du bénévolat d'entreprise aussi. Et qu'on a aujourd'hui, si on prend une photo finalement des parcs de New York, dans certaines activités, on va trouver toutes ces catégories de travailleurs qui font la même chose, mais certains sont considérés comme des travailleurs, d'autres non. Certains ont des droits, d'autres non. Certains sont payés, d'autres non.
Sachant que quand vous dites bénévole, c'est aussi peut-être à défaut d'un autre terme qu'il faudrait peut-être inventer, pour définir ceux qui travaillent, certes sans être payés, mais en contrepartie de recevoir une aide sociale. Donc ils ne sont pas rémunérés, mais c'est une indemnisation.
Ah oui.
Et c'est ce qu'on appelle le workfare.
Oui, alors là, je ne parle pas de bénévoles pour eux. Je suis très claire. Ce sont les allocataires de l'aide sociale.
Pourtant, on les présente souvent comme des bénévoles.
Oui, ou on les présente pas forcément comme des bénévoles. On va les présenter aux États-Unis, en tout cas. En France, oui, quand on reviendra sur cette question en France, on les regardera comme ça. Aux États-Unis, le workfare est en place. Donc le workfare, c'est cette obligation faite aux allocataires de l'aide sociale de donner des heures de travail pour continuer à toucher leur allocation. Donc c'est quelque chose qui a été mis en place sous Clinton en 96, c'est la réforme de l'aide sociale, hein, comme on a dit à l'époque, to end welfare as we know it. Donc maintenant, c'est fini la cistana, hein, c'est un peu le discours. Maintenant, si on veut toucher ces allocations d'aide sociale, il va falloir donner des heures de travail en échange. À New York, le workfare existe depuis les années 80. John Krinsky, mon collègue, c'est un spécialiste de cette question. Il a montré comment on a des programmes de workfare qui sont d'ailleurs contestés, etc. Dès les années 80 dans la ville de New York. Donc c'est une ville pionnière en la matière. Donc ce workfare, il est très institutionnalisé aux États-Unis. Il est institutionnalisé depuis longtemps. Donc les allocataires de l'aide sociale qui font ces heures pour continuer à toucher leur allocation, ne sont pas considérés par les Américains comme des bénévoles. Les gens les considèrent comme des allocataires de l'aide sociale qui font leurs heures de travail, effectivement. Sachant qu'en plus, ce sont 20, 25, 30 heures par semaine qu'ils doivent faire, donc plutôt dans des services publics, parfois dans des associations, pour continuer à toucher leurs allocations.
Et d'une certaine manière, le modèle américain a quand même l'intérêt de la clarté, car c'est clair, ils doivent faire un certain nombre d'heures en contrepartie de ces aides sociales. En France, on n'en est pas encore là. On a certains politiques qui ont évoqué cette idée de contrepartie au fait d'avoir des aides sociales, mais pour l'instant, c'est peut-être plutôt des choses plus insidieuses. On va inciter certaines personnes à faire du travail bénévole qui sera bien vu dans la commune, dans un espace, et en contrepartie peut-être que le maire va nous aider. Vous évoquez des exemples comme ça dans votre ouvrage.
Oui, alors on n'en est pas encore là, même si, comme vous l'avez évoqué, c'est un débat qui revient, enfin c'est une idée qui revient quand même dans la sphère publique et puis de plus en plus fréquemment, hein, donc ça mérite quand même qu'on s'y intéresse, hein. On peut se rappeler que Laurent Wauquiez avait évoqué ça en 2011 avec cette idée que la cistana c'était le cancer de la société française et qu'il fallait quand même que les allocataires aillent donner. Alors il parlait pas de bénévolat, il parlait d'heures d'utilité sociale à l'époque. Et puis plus récemment, bon, ça avait fait quand même du bruit à l'époque et puis l'idée avait été suffisamment critiquée pour que ça disparaisse pendant un moment de la sphère publique et en même politique et en même temps. C'est revenu quand même assez fortement en 2016 quand un département, puisque vous savez que le RSA est administré par les départements aujourd'hui, même si c'est une politique nationale, et un département, donc celui du Haut-Rhin, avait annoncé en 2016, en février 2016, qu'à partir de janvier 2017, dans le département, pour continuer à toucher ses allocations du RSA, et ben maintenant il faudrait faire 7 heures de bénévolat par semaine.
Avant d'être toqué par la justice.
Alors, avant d'être toqué effectivement par le tribunal administratif, qui avait effectivement rendu un avis contraire à l'obligation, hein, en disant attention, on peut pas obliger quelqu'un à faire du bénévolat. Ça peut éventuellement être mis en place dans le cadre de contrats librement débattus avec la personne, etc. Donc il y avait quand même une ouverture. On peut pas l'obliger par le haut, mais ça peut se mettre en place dans un dispositif débattu, on va dire, avec l'allocataire. Ce qu'a fait d'ailleurs le département du Haut-Rhin en disant bah finalement on va le faire dans le cadre des contrats d'engagement réciproque que doivent signer les allocataires avec leurs référents. Et puis par la suite, donc on s'en était arrêté là, et puis en juin 2018, c'est passé au Conseil d'État, et le Conseil d'État est revenu sur cette décision du tribunal administratif en disant bah en fait, si dans une certaine mesure, dans certaines conditions, on peut imaginer qu'un département demande aux allocataires, dans le cadre de leur contrat, de faire des heures de bénévolat. Donc on est aujourd'hui dans une situation où on n'est pas, évidemment dans le cas américain, on n'est pas dans une obligation, mais on a quand même ouvert la porte à cette possibilité que ce soit mis en place au niveau des départements. À côté de ça, donc ça c'est un premier niveau, c'est le niveau, j'ai envie de dire, légal, juridique. À côté de ça, comme vous l'évoquiez tout à l'heure en parlant de mes recherches, il y a de fait, c'est ce que j'ai essayé de montrer moi dans mes enquêtes, il y a déjà, dans des départements en France ou dans des collectivités, des communes, des programmes de bénévolat qui sont mis en place par les municipalités ou les départements à destination spécifique des allocataires du RSA, qui ne sont pas obligatoire, mais quand on est sociologue, on sait que entre l'obligation légale et les formes de contraintes sociales qu'il peut y avoir, eh ben il y a tout un spectre en fait de contraintes, de coercition.
Surtout quand on va dans des espaces sociaux peut-être plus petits, du
exactement,
domaine de la commune ou du département, où il peut y avoir l'infra discours, des choses qui
oui,
relèvent de l'informel, ou simplement c'est quelque chose qui est bien compris entre la personne qui explique et la personne qui reçoit cette idée selon laquelle vous n'avez pas d'obligation, mais pourtant ça vous aiderait beaucoup de faire ce genre d'action.
Tout à fait. Cette idée que finalement, bah, ça peut être un tremplin. Il y a toute une rhétorique qui s'est construite, en fait, que j'ai essayé un petit peu de documenter ces 20 dernières années. C'est quand même, si on fait une toute petite parenthèse, c'est quand même intéressant de se dire, il y a plus de 20 ans, un chômeur qui était pris en train de faire du bénévolat pouvait se voir radier ses allocations chômage parce qu'on et c'était arrivé, hein, il y a eu toute une mobilisation des associations contre ça, à tel point qu'elles ont demandé dans la loi contre l'exclusion qu'on donne le droit explicitement aux chômeurs de faire du bénévolat, etc. Donc il y avait l'idée que le bénévolat pouvait être un obstacle à la recherche d'emploi qui était fortement porté par les politiques de l'emploi, et aujourd'hui on serait dans l'idée que finalement si on n'a pas d'emploi et qu'on n'est pas en train de faire du bénévolat à côté, ben on n'est pas vraiment un bon chômeur. Et donc on passe finalement d'une interdiction à une injonction qui prouve que le référentiel ou les paradigmes un peu des politiques de l'emploi autour de ces questions se sont workfairisés, se sont inspirés finalement de cette logique un peu américaine. Et donc on peut retrouver dans des situations locales, moi j'ai travaillé sur des petites communes où effectivement les maires ont mis en place des programmes de bénévolat et ils peuvent dire très clairement, vous m'aidez à nettoyer la ville, je vous aide à trouver un boulot.
C'est ça, aussi simple que ça. Et vous expliquez aussi de manière extrêmement intéressante que vous reliez très clairement cette évolution du discours à l'émergence du néolibéralisme, et notamment tel qu'il est développé par des philosophes comme Nancy Fraser ou des sociologues comme Luc Boltanski, qui explique que la rhétorique du néolibéralisme, c'est celle d'un homme nouveau, libre, sans entrave, qui est dans la capacité de se former, de se forger lui-même. Mais dès lors, ça veut dire qu'est-ce qu'il va forger et qu'est-ce qu'il montre à la société. Et c'est là que vous dites que pour le travail domestique comme pour le bénévolat, le travail gratuit de la femme doit faire la preuve qu'elle est une bonne épouse. Le travail gratuit des bénévoles doit faire la preuve que ce sont de bons citoyens.
Oui, cette idée de la preuve, c'est-à-dire que finalement, le travail gratuit, comme l'ont montré les féministes effectivement à partir du travail domestique, hein, c'est ce qui donne aussi, ce qui mesure la valeur de la femme. Hein, c'est un peu comme ça qu'on le présente, c'est-à-dire en fait vous êtes une bonne femme, une bonne mère si vous faites votre travail domestique. Hein, c'était un peu le message qui était envoyé aux femmes et qui l'est toujours en partie. Bah, de la même manière, aujourd'hui, le travail gratuit tend à devenir la preuve de notre valeur. Alors c'est d'autres valeurs. Hein, on est un bon citoyen si on va faire du bénévolat ou si, n'ayant pas d'emploi, on va quand même montrer qu'on a une utilité sociale et qu'on a une dignité.
Ce que vous appelez la face civique du néolibéralisme.
Alors voilà, et du coup par rapport à ce que vous évoquiez de Nancy Fraser, hein, Nancy Fraser, elle a à un moment donné dans un article assez important, tout à la fois rendu hommage au travail de Luc Boltanski et F. Capello sur le nouvel esprit du capitalisme, et en même temps en disant attention, la rhétorique qui est au cœur du nouvel esprit du capitalisme tel que nous le montrent ces auteurs-là, c'est quand même une rhétorique très masculine, hein, de cet individu voilà qui se modèle lui-même, qui est libre, sans entrave, qui va se construire. Donc c'est cette figure en fait qu'on a beaucoup analysée finalement du néolibéralisme comme étant un individu qui se construit un peu contre les autres, avec tout ce discours autour de la concurrence, etc. Or, il y a aussi une forme de néolibéralisation du travail aujourd'hui, de gratuitisation du travail, d'attaque contre finalement les institutions du salariat, du travail, qui passe pas par cette rhétorique-là, mais qui passe par ces valeurs. Hein, c'est au nom de la citoyenneté, c'est au nom de l'engagement, c'est au nom de toutes ces valeurs-là dont vous êtes appelés à faire la preuve qu'on va déréguler le travail, et notamment dans les services publics.
De l'engagement dans le foyer, de l'engagement dans la cité, mais de l'engagement aussi au travail, c'est là qu'on trouve une mise en abîme assez terrifiante, c'est que même dans le monde du travail, il faut montrer qu'on est suffisamment intéressé par le sujet pour être capable de le faire sans être payé. Je vous propose d'écouter ce qu'en dit Bernard Friot dans un entretien qu'il donnait aux médias.
Aujourd'hui, un jeune, aujourd'hui à 25 ans, gagne 2,5 fois de moins en euros constants que ce qu'il aurait gagné à la fin des années 60. Il y a un véritable effondrement. Une espèce d'habituation de la jeunesse, d'ailleurs, à la pauvreté. Ils se contentent de 800 balles. Les jeunes embauchés à la qualification, mais il n'y en a pratiquement plus. Ils sont embauchés sur un contrat de mission, ils sont embauchés sur un contrat de projet, ils sont embauchés pour un salaire à la tâche, mais pas du tout pour la reconnaissance de la qualification dans la convention collective. C'est un horizon qui a disparu de la jeunesse. Ils sont en plus utilisés gratuitement en faisant valoir le civisme. Regardez cette campagne absolument scandaleuse de publicité sur le service civique où on exalte le civisme des jeunes pour ne pas les payer, enfin, ce qui est quand même scandaleux. Ils sont avec les emplois jeunes, les contre-emplois solidarité, etc., etc. On a progressivement remplacé remplacer le droit au salaire à la qualification par un droit à un forfait financé par l'impôt.
Bernard Friot s'indigne dans cette interview de l'exaltation du civisme chez les jeunes comme un moyen de ne pas les payer, Maud Simonet.
Oui, on échange beaucoup sur ces questions-là. On est plusieurs dans le laboratoire où je suis, donc à l'IDHES, dans lequel a participé, enfin était aussi Bernard Friot, et continue à échanger, à travailler ensemble. On est plusieurs à travailler sur ces questions de service civique. C'est très proche de ce que je mettais en avant, c'est-à-dire au nom de...
Le travail gratuit est vu comme un tremplin maintenant.
Alors, il est vu comme un tremplin, il est vu comme payé en lui-même, donc il est la preuve effectivement pour ces jeunes. Je veux dire, on pourrait reprendre l'exemple Martin Hirsch, qui est à la fois le fondateur du RSA, mais aussi du service civique, et qui disait à un moment donné, pour défendre le dispositif et récupérer plus d'argent sur le dispositif, disait un jeune qui a le sens de l'effort préférera faire un service civique que rester une année supplémentaire au chômage. Donc on est dans cette idée effectivement de la preuve, c'est-à-dire qu'un jeune qui est au chômage, qui va pas faire un service civique, c'est pas un bon jeune. Hein, il a pas le sens de l'effort.
Et puis le celui chômage, qui va
aller
mal.
Faire, voilà. Donc celui qui va aller faire son service civique, il montre qu'effectivement il a le sens de l'effort. Il montre qu'il est un bon citoyen. Et effectivement, il passe toutes ces années, ces mois-là, pardon, à un peu moins de 500 euros par mois, en dehors complètement du code du travail, et de plus en plus dans des activités qui sont des activités, puisqu'aujourd'hui ça s'est passé aussi dans le service public, qui sont vraiment des activités qu'on a du mal à pas catégoriser comme des activités de travail concrètement. Donc il y a effectivement cette idée de la preuve, il y a cette idée du tremplin. Il y a les sociologues américains, je reprends un peu leurs travaux dans mon livre, ont sorti plein de concepts pour évoquer cette idée d'une économie, en fait, d'une économie de l'espoir, ou d'une économie de l'espoir, ou de la promesse, en fait, hein, cette idée que finalement on travaillerait gratuitement avec l'espoir demain, hein, le hope labor, ils appellent ça, l'espoir demain de décrocher le travail rêvé, l'emploi rêvé. Et ce qu'évoquait Bernard Friot, c'est en fait tout cette espèce de continuum qui est en train de se construire entre de zones grises, ou de continuum de statut qui est en train de se construire entre ce qui relevait du salariat et ce qu'on pourrait mettre à l'autre bout du bénévolat. Et aujourd'hui, on a tout un espace comme ça qui ressemble à un parcours qu'il faudrait en fait suivre pour arriver à l'emploi, c'est-à-dire on commence comme bénévole, et puis ensuite peut-être on a un service civique, puis ensuite on a peut-être un emploi tremplin, et ensuite peut-être on aura un vrai boulot. Et c'est en ça que ça pose des vraies questions, parce que ça a tendance finalement à socialiser aussi à cette gratuitisation du travail, et à socialiser d'autant plus que cette gratuitisation, elle est faite encore une fois au nom de valeurs, c'est-à-dire on est dans l'espace de la citoyenneté, dans le monde associatif, dans les services public, ou souvent dans les services publics féminins. Je rappelle que le service civique, c'est à plus de 60% des femmes, et quand on rentre dans certains secteurs qui ne sont pas le sport, on est à 80-85% de femmes. On pourrait évoquer la question des stages, sur ces questions-là aussi, qui sont aussi un de ces statuts intermédiaires, hein, où là aussi, les stages non rémunérés, c'est essentiellement 75-80% des femmes. Donc en fait, pour reboucler sur cette question de néolibéralisme, oui, on a une forme de féminisation, de gratuitisation aujourd'hui du traitement politique du travail. Et donc une face civique et une face aussi féminine du néolibéralisme qui repose pas sur la guerre de tous contre tous, mais sur la gratuitisation du travail au nom de valeurs.
Ça vient donc compléter d'une certaine manière la pensée de Michel Foucault, qui expliquait que le néolibéralisme entendu dans son sens économique, avec Bourdieu aussi qui expliquait ça comme ça, que le néolibéralisme était la mise en concurrence de tous contre tous, mais également des êtres humains, pas seulement des biens et des services, mais aussi des êtres humains. Et on voit que cette vous parliez du service public, vous parliez d'un certain nombre de domaines de la maison, de la cité, etc. Mais même dans l'économie elle-même, vous prenez l'exemple de l'industrie de la mode, par exemple, pour laquelle un stage, c'est tout de même la perspective de pouvoir percer dans cet espace économique.
Oui, là, il y a plusieurs travaux sur les industries créatives, etc. Mais sur l'industrie de la mode, là, il faut absolument voir le très beau travail de Giulia Mancitieri sur le fonctionnement de cette industrie et le contraste qu'elle met en évidence entre une industrie qui fonctionne autour de la construction du prestige, du luxe, etc., de la valeur, et puis la précarité dans laquelle fonctionnent ces travailleurs-là, et qui arrive même à poser la question de qui peut aujourd'hui travailler gratuitement, finalement. Donc ça pose aussi toutes les questions de l'institutionnalisation de ces formes de travail gratuit. Mais on parle de la mode, mais on pourrait aussi parler des médias, que ce soit radio, journaux, etc. Moi, j'ai été interviewée sur mon livre sur le travail gratuit par des jeunes formidables journalistes qui m'ont posé des questions exceptionnelles. Et quand ils ont éteint le magnéto et que l'entretien s'est terminé, j'ai appris qu'ils étaient stagiaires non rémunérés au journal et qu'ils avaient aussi donc lu mon livre finalement à plusieurs niveaux. Donc on est dans ces industries-là, mais ça fait un moment finalement que ça a été dit par les sociologues qui ont travaillé sur les industries créatives, parce que c'est aussi des industries qui fonctionnent sur la vocation. Donc là, en fait, c'est au nom de l'art pour l'art. Donc on ne va pas demander...
C'est ce qu'explique Julia Mencitieri, c'est cette hiérarchie paradoxale, par exemple, du monde du luxe, où ce sont à la fois les métiers créatifs qui sont les plus prestigieux, mais qui sont aussi les moins bien payés, quand dans le même temps, par exemple, des commerciaux ou alors des vendeurs qui sont moins prestigieux dans l'échelle de cet espace social sont pour autant très bien rémunérés.
Oui, tout à fait. Tout à fait, mais ça, voilà, y a son travail le montre à merveille en posant effectivement toutes ces questions-là, des échelles de valeur finalement entre ce qui est monétisé et ce qui ne l'est pas. Mais je pense que ça déborde en fait ces industries-là et que ces questions-là, il faut les poser aussi. Et moi, c'est plutôt par là que je suis arrivée dans ces questions, puisque moi, je suis pas une sociologue de ces industries-là. Je suis une sociologue finalement au départ du monde associatif, puis des services publics avec l'enquête faite avec Jean Krinsky. Mais il faut poser ces questions-là aussi dans ces espaces-là que sont le travail dans nos services publics et le travail dans ces associations.
D'autant qu'il est important de rappeler que l'État, dans cette situation, loin d'avoir freiné cette évolution qui veut qu'on substitue de plus en plus le travail gratuit à des formes de travail traditionnelles rémunérées, au contraire, l'État a encouragé ce type de pratique.
Bien sûr, et c'est en cela que la notion de néolibéralisme, elle est importante, parce que quand on pense néolibéralisme, on pense, depuis les derniers travaux importants là-dessus, on pense justement que on est dans une intervention forte de l'État. Et effectivement, les formes de travail gratuit sur lesquelles j'ai travaillé, que ce soit le bénévolat, que ce soit le volontariat, que ce soit le workfare, passent tous par des politiques publiques qui sont mises en œuvre par l'État. La documentation qu'on a faite avec Krinsky de cette démultiplication de statut de travailleur au cours des 30 ou 40 dernières années dans les parcs de New York, c'est montrer comment se construisent des politiques du workfare, comment la municipalité décide d'y recourir, comment la municipalité met de l'argent pour motiver l'engagement bénévole des citoyens new-yorkais. Donc il y a des fondations qui se mettent avec la municipalité pour construire des partenariats publics-privés où il y a de l'argent. Donc pour mobiliser le travail gratuit, on dépense de l'argent, il y a de l'argent qui circule et ce sont véritablement des politiques du travail gratuit qui sont mises en œuvre.
D'autant que ce sera le dernier mot, on arrive à la fin de cette émission, que ce qu'il est intéressant de pointer peut-être comme conclusion paradoxale de cette émission, que le fait de toujours utiliser, de faire passer l'action bénévole dans le spectre de l'expérience professionnelle, de dire j'ai fait tant de stages, donc ça me qualifie pour aller travailler dans le monde professionnel. C'est aussi une manière de réduire la portée de l'engagement bénévole qui n'est plus qu'un marchepied pour quelque chose de marchand et d'économique au final.
Oui, alors en même temps, ça enlève jamais rien. Et je pense que c'est là où, par exemple, tout ce que nous a dit Bellux, on doit le garder en tête. C'est-à-dire qu'on peut, et on doit même, je pense, pouvoir penser la question de l'exploitation et la question des valeurs que ça peut apporter, enfin que les acteurs peuvent placer effectivement dans ce travail gratuit, et c'est pour ça que c'est complexe de résoudre ces questions du travail gratuit.
Merci encore Maud Simonet d'avoir été parmi nous pour explorer les logiques du travail gratuit. Je rappelle que vous êtes sociologue, directrice de recherche au CNRS et auteur de l'ouvrage « Travail gratuit, la nouvelle exploitation » publié aux éditions Textuelles. Demain, nous reviendrons sur le modèle économique du numérique qui joue habilement de l'illusion du gratuit pour capter et monétiser nos données. D'ici là, vous pouvez retrouver cette émission et bien d'autres disponibles pour toujours en podcast ou sur le site de France Culture. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux avec le mot-clé « Entendez-vous l'écho ?» I'm at the ship.
alive.